Quand on a parlé à Mathieu Roy à 15h05, en début d'émission, Mathieu, c'était pour parler du désabonnement massif de Facebook. Plusieurs abonnés qui ont décidé qu'ils n'aimaient pas le scandale de transmission de données personnelles. Ça touche 50 millions d'abonnés. Alors, ils ont décidé de se désabonner. Et je te disais, mais comment se fait-il que le président directeur général, créateur de Facebook, Mark Zuckerberg, n'a pas réagi? Il l'a fait au cours de la dernière heure.
Absolument. À 15h50, un long texte de 936 mots sur sa page Facebook. Bonne chance si vous le lisez sur votre téléphone intelligent. Je résume très rapidement. Nous avons la responsabilité de protéger vos informations. Et si nous ne sommes pas capables de le faire, nous ne méritons pas de vous servir. Je tente de comprendre ce qui s'est exactement passé afin que cela ne se reproduise plus. La bonne nouvelle, c'est que les principales actions pour éviter cela, à nouveau, ont été prises il y a quelques années. Par la suite, il rapporte l'historique des événements et l'implication ou non de Facebook. Il commence à partir de 2014 et il termine avec « J'ai démarré Facebook et j'ai la responsabilité de voir à ce qui se passe sur notre plateforme. Ça ne changera pas le passé, mais ce qui s'est produit avec Cambridge Analytica ne pourrait plus se produire aujourd'hui. Je promets que nous allons travailler à bâtir un meilleur service avec le temps, mais le problème, c'est probablement le temps. Mark Zuckerberg a laissé trop de temps entre le début de cette crise et sa publication dans les dernières heures. Un silence qui a permis, évidemment, au mot-clic « delete Facebook » d'apparaître et aussi aux États-Unis, au Royaume-Uni et à d'autres endroits de vouloir avoir des réponses sur qu'est-ce que Cambridge Analytica a comme données, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Donc, on va surveiller ça, mais évidemment, en ce moment, je dirais que le grand public sait maintenant que Facebook a beaucoup de données, qu'ils peuvent les utiliser parfois à notre insu. Et si c'est pas eux qui les utilisent, ça sera une autre compagnie. Et quand on transporte des matières dangereuses sur la route, on a des règlements spéciaux sur la route. C'est ce qui va arriver avec Facebook parce qu'ils ont des données extrêmement sensibles.
On va parler de Twitter maintenant, qui serait nocif pour les femmes selon Amnesty International.
Oui, rapport de 77 pages qui a été fait et commandé par Amnesty International qui questionne la responsabilité de Twitter dans le harcèlement et les violences faites aux femmes sur leur réseau social. Une enquête qui a été menée depuis décembre 2016, dont à peu près 16 mois. Des témoignages, des chiffres, des statistiques, des exemples de tweets, les causes, la nature des harcèlements, les conséquences aussi. C'est très intéressant dans les différents articles qui traitent de ce rapport-là. On dit que Twitter carrément nuit aux femmes. On dit que les femmes les plus prises pour cible sont celles qui s'exposent soit par leur métier ou encore par leur engagement. On parle de personnalités politiques, de journalistes, d'activistes ou encore de blogueuses. Sauf que l'exposition à une masse, au public, ça suffit pas à tout expliquer parce que dans un questionnaire qu'on permettait aux gens de remplir, on dit que 62% des femmes qui sont pas nécessairement suivies par une masse ont répondu avoir déjà été victimes de harcèlement sur Twitter. Ça peut être des menaces physiques ou encore des armées de trolls, des gens malfaisants là, qui est très souvent anonyme, qui vont s'unir et qui vont trouver une seule victime qui fait pas leur affaire, soit dans leurs propos ou encore dans leur façon d'être. Donc, c'est extrêmement particulier. Il y a même des informations personnelles de certaines femmes qui ont été dévoilées publiquement. Les femmes victimes de violences sur Twitter, dit-on, sont plus susceptibles de ressentir du stress, de l'anxiété et aussi un sentiment d'impuissance. Twitter a déjà commencé à faire des efforts durcissant sa politique relative au contenu violent et haineux, mais c'est pas encore assez au goût d'Amnesty International qui y va de quelques propositions aussi. Donc, un rapport très intéressant et malheureusement très confrontant aussi.
Alors, on a parlé des géants, Facebook, Twitter, pourquoi pas terminer avec l'autre, Google, qui lance une initiative pour faciliter l'abonnement à des médias payants.
Ouais, et ça c'est très intéressant. Des médias payants, on peut penser à certains grands journaux dans le monde qui ont des sections effectivement qui sont payantes. Peut-être toi-même, Paul, es-tu abonné?
Oui, New York Times.
Le New York Times, oui. Notamment. Donc, mais ça va s'appeler Google.
Ouais. Pardon. Mais ici aussi au Québec, on peut le faire.
Oui, absolument. Oh, oui. Google Subscribe, ça va permettre donc aux lecteurs de s'abonner à des médias en seulement quelques clics à partir de leur compte Google, donc sans avoir à passer par toutes les pages transactionnelles. Donc, vos accès à ces sites-là vont vous suivre sur tous vos appareils grâce à votre compte Google, donc plus besoin de naviguer à travers des pages d'identification et avoir à repayer à chaque fois et à repasser par le processus de rentrer sa carte de crédit, tout ça. Non, on va utiliser votre compte Google. D'ailleurs, Google va prendre un grand virage pour s'assurer de la qualité des informations qu'ils vont vous proposer, même dans ses résultats de recherche. Donc, il y a un virage extrêmement intéressant. Et pour ce qui est de Google Subscribe, je suis convaincu que ça va avoir un effet parce que des fois, on se dit « Ah, oh, je vais-tu lire l'article au complet? C'est mon ça. Abonnement ça, est terminé. »
Ça va nous inciter exactement à lire l'article au complet. Ça va être comme une sorte de kiosque à journaux.
Oui, exact. Hein? Où ça sera beaucoup plus facile, justement, de s'abonner à ces différentes publications qui sont de très grande qualité, soit dit en passant.
Merci, Mathieu. Bonne journée, bonne soirée et à demain.
À demain.